Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. On estime que près d'1,5 million d'enfants juifs ont été assassinés lors de la Shoah. Au-delà du délire idéologique qui a pu mener à une politique qui programmait l'assassinat d'enfants dont les nazis avaient peur qu'ils vengent un jour leurs parents, on peut se demander comment ces enfants ont vécu cette période, ce qu'ils ont ressenti, quelle conscience ils ont eu de la fin, du danger, des persécutions, de l'enfermement et de la politique d'extermination. L'exposition qui vient de débuter au Mémorial de la Shoah tente de répondre à ces questions et se base sur les écrits et témoignages des enfants, ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui ont survécu et qui ont été protégés, cachés, pris en charge et sauvés. Avec nous pour en parler, Jean-Yves Potel et Sophie Nagiscard, qui sont commissaires de cette exposition. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, vous pouvez essayer de nous expliquer pourquoi vous avez décidé de concentrer cette exposition sur le sort des enfants. Est-ce que ce sort différait finalement de celui des familles ?
Non, je ne pense pas que le sort des enfants différait de celui des familles, même si ponctuellement, ce qui est arrivé aux enfants a été tout de même différent. Ce qui est arrivé aux adultes, et notamment dans les ghettos, je pense que Jean-Yves nous en parlera. Mais il n'y a pas eu une politique nazie spécifiquement envers les enfants, hormis quelques évidemment décrets, exclusion des écoles et autre chose comme ça. Mais les enfants ont subi le même sort que les adultes. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les camps d'extermination, les enfants n'avaient aucune chance de survivre. Contrairement aux adultes qui pouvaient éventuellement être sélectionnés par le travail, enfin, notamment à Auschwitz, puisque dans les autres camps, la question ne se posait pas, tout le monde était éliminé.
Oui, en fait, ce que le monde montre bien cette exposition, c'est en fait le processus d'extermination a été un processus long. C'est-à-dire que ça ne commence pas simplement dans l'entrée du camp d'extermination, mais ça commence avant, notamment dans les ghettos, où il y a une politique des nazis de la faim, laissant la maladie, etc., qui fait que beaucoup de gens meurent dans les ghettos. Et ces ghettos vont durer pour certains 3 ans, 4 ans. Et pour les enfants, il va y avoir cette situation particulière de... Bien sûr, ils vont être victimes de la faim, des maladies, et il va y avoir des rafles spécifiques pour eux, notamment dans la ville de Łódź, on y reviendra. Mais en même temps, il y a le fait que ces enfants voient leurs parents mourir, disparaître, et ils se trouvent complètement abandonnés par la mort, c'est-à-dire qu'ils sont seuls, et ils sont dans des situations terribles en tant qu'enfants. Et il y a bien sûr dans les ghettos des organisations juives qui s'occupent des enfants mais qui n'ont pas de moyens pour les nourrir, qui n'ont pas de moyens pour les loger. Et tous ces enfants sont dans des situations absolument terribles. Ils sont, et je crois qu'il y a comme cette spécificité dans le ghetto. Et je rappelle, on a mis une carte dans l'exposition sur le territoire, disons, de la Pologne, de l'ouest de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Lituanie. Il y avait 500, 600, 1000 ghettos. Ce n'était pas simplement un, c'était beaucoup, et des camps de travail. Et dans ces ghettos, il y avait des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Quand, par exemple, ils ont liquidé le ghetto de Varsovie, dans l'été, la première grande liquidation de l'été 42, 90-95% des enfants qui étaient dans le ghetto, je veux dire les enfants, c'est-à-dire des moins de 12 ans, tous assassinés, tous envoyés à Treblinka ou assassinés sur place. Pareil à Lublin et dans la plupart des ghettos. Donc il y a à la fois un sort commun, mais il y a aussi cette spécificité qui fait que les enfants se sont retrouvés dans des conditions absolument épouvantables. Et il faut voir aussi qu'il y avait de la part des autorités, des Judenrat ou des associations qui existaient dans les ghettos, des tentatives, on le voit très bien dans cette exposition, d'organiser de l'éducation, des jeux, de la prise en charge des enfants, mais en fait il y avait très peu de moyens. Très vite, par exemple, dans le cas de Łódź, ils ont et de Lublin également, ils ont empêché cela parce que en faisant venir du surnombre, fermant les écoles qui existaient, etc. Et ces enfants se retrouvaient, ils ont même été sélectionnés pour être envoyés à la mort séparément. Parce que là aussi, c'est un point qui est très important qu'on voit dans l'exposition, c'est que dans les ghettos, il y avait une sélection de même nature, disons, sur le fond que la sélection qui avait entré d'Auschwitz au Birkenau, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient sélectionnés pour la mort et ceux qui étaient sélectionnés pour travailler. Et on le voit très en détail dans ces expositions pour le cas de Hutsch, où en 1942, les Allemands ont demandé au Judenrat Trunkowski de réunir tous les enfants de moins de 10 ans pour les envoyer à Chemnau, où ils ont été tous gazés. Et il y a eu un appel que l'on publie, que l'on montre, qui pour la première fois vous pouvez lire en français.
Oui, c'est un texte qui est très frappant.
Enfin, qui est très fort, qui est très dur. Et donc on a récupéré aux archives de Hutsch, qui sont partenaires, pour cette exposition, le texte en yiddish de ce discours qui est traduit. Et on voit les photos, on voit aussi ce qui est en parallèle de ce discours, des extraits du journal d'un adolescent, David Cherakoviak, qui avait déjà été publié en français mais traduit de l'anglais. Là, on l'a fait traduire du polonais, la langue originale. Et là, on voit très bien que ce jeune homme était tout à fait conscient de ce qui allait arriver à ses petits-enfants. Et il l'écrit. Et il décrit, on a d'autres témoignages qui décrivent aussi la panique des mères, les gens qui ne voulaient évidemment pas donner leurs enfants. Et ce drame, où en quelques jours, 5500 enfants ont été envoyés à Chemnau. Bon, et avant, il y avait déjà eu à peu près 5 ou 6 000 qui avaient été envoyés quelques mois précédemment. Donc tout ça parce que, enfin, dans une logique, qui était la justification officielle, qui était reconduite par Rumkowski, qui est celle du travail. Il y a que ceux qui travaillent. Et donc, vous avez aussi des enfants qui travaillaient dès l'âge de 8-9 ans. Donc, on voit aussi des photos de ces enfants qui travaillaient.
Oui, et d'ailleurs, vous l'avez en partie dit, Jean-Yves Potel, ce qui est très intéressant aussi dans cette exposition, c'est que l'essentiel des textes, l'essentiel des écrits que l'on peut lire dans cette exposition sont le fait d'enfants, c'est-à-dire que c'est finalement la voix des enfants qui prime dans cette exposition.
Oui, c'est un choix qui a été délibérément fait de donner la voix des enfants. C'était, je pense, une des manières essentielles de faire ressentir ce qu'avaient ressenti les enfants, ce qui était un petit peu, je trouve, le but de l'exposition, d'être simplement descriptif du sort des enfants, c'était une chose, mais je crois qu'il fallait, puisque ces dernières années, plusieurs études ont été consacrées à ces journaux d'enfants, et que nous avons fait un grand travail de recherche, donc en Pologne, à l'Institut historique juif de Varsovie, mais aussi dans les archives du CDJC, on a retrouvé beaucoup de livres, puisque beaucoup de témoignages d'enfants ont été publiés dans l'immédiat après-guerre. Donc en 45 par la commission historique juive en Pologne, 45-46. En 47, il y a plusieurs témoignages qui paraissent, un à Tel Aviv, un en Argentine et puis d'autres aussi en Pologne à nouveau. Et donc nous sommes allés rechercher ces témoignages-là pour les retraduire. Et on en montre d'ailleurs plusieurs extraits. Donc ce qui est intéressant, c'était, je trouve, de donner justement la voix des enfants. Et ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est que les enfants qui étaient pris dans la Shoah, enfin en tous les cas dans les discriminations dans la Shoah, et qui ont perdu leurs parents, comme le disait Jean-Yves, et qui ont été confrontés à des choses très dures, ont évidemment pris une maturité assez précoce, hein, et écrivent de très beaux textes. Et puis il y a aussi beaucoup de poésie. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que même dans les moments les plus durs, il y a de la poésie qui est écrite avec un certain deuxième degré. Par exemple, il y a des textes donc sur Belzec, la petite Janina Echeles, sur sa maman, des textes, plusieurs poèmes aussi d'enfants comme ça, sur leurs parents.
Des textes de Uri Orlev aussi qu'on peut...
Les textes d'Uri Orlev, bien sûr, puisqu'il nous a même prêté pour la première fois son carnet qu'il a ramené avec lui de Bergen-Belsen. Et puis on a aussi quand même choisi quelques textes d'adultes, parce qu'il y a de très beaux textes d'adultes qui ont été aussi écrits pendant la période, soit par des parents, soit par des gens qui regardent les enfants, notamment un texte que Jean-Yves nous a conseillé, qui a été écrit sur les enfants des rues dans le ghetto de Varsovie. Et je pense que la conjonction de ces deux textes, plus de l'iconographie qu'on a essayé de choisir essentiellement faite par des juifs et non pas des photos de propagande, donne en fait un puzzle, on va dire, qui permet de se faire une bonne idée de la manière dont, enfin, de ce qu'ont vécu les enfants et de la manière dont ils l'ont ressenti.
Oui,
sur les photos, oui, par exemple, il y a un photographe qui s'appelle Mandel Grossman de Hutsch, qui était un personnage très intéressant, qui travaillait officiellement pour le Judenrat, c'est-à-dire qu'il faisait des photos d'identité, mais qui était un photographe professionnel de très grande qualité, qui n'arrêtait pas de photographier. Il y a même une photo qu'on ne l'a pas mise, mais qui est connue, où on le voit en train de photographier de prendre des photos pendant, avant de monter dans les transports. Et il est mort à Auschwitz. Et on a retrouvé après la guerre ses négatifs. Et c'est des magnifiques photos qui montrent justement les enfants. Beaucoup montrent les enfants, le travail, bon, le ghetto. Et donc l'idée, ça a toujours été de prendre des photos soit faites par des Juifs, soit pour quelques-unes qui ont été faites par des Allemands. Ce ne sont pas des photos de propagande, à part une ou deux fois où on les a commentées en tant que telles. Mais il y avait aussi des soldats allemands qui ont fait des photos et qui bon, les ont pas utilisées à l'époque, qu'on a découvert après, qui ont été faites avec leur Leica. Donc il y a quelques-unes de ces photos comme ça, notamment sur d'autres ghettos. Donc ça, mais donc c'est l'état d'esprit, c'est aussi de prendre des témoignages d'enfants de l'époque. C'est-à-dire, bon, beaucoup d'enfants ont témoigné beaucoup plus tard, ou qui sont aujourd'hui des personnes beaucoup plus âgées. On a privilégié ceux qui avaient les témoignages de l'époque. Et je voudrais raconter en une seconde le témoignage de, par exemple, de cette Yelena Enchelès, parce que elle a été découverte par quelqu'un qu'on connaît bien en France, qui était Michal Borowicz, qui était à l'époque à la communauté qui était à Lvov, et qui l'a sortie d'une situation où elle était complètement... elle faisait rien, elle était presque morte, et elle s'est mise à 7 ou 8 ans, elle s'est mise à écrire un journal, et qui est absolument extraordinaire, qui a été publié après la guerre, qui a été publié, et d'ailleurs elle va venir,
oui, elle
est
vivante,
elle va venir, elle vient justement en Israël, elle va venir dans les débats que l'on va faire, parce qu'il y a toute une série de débats autour de ces expositions qui sont faites dans l'auditorium du mémorial, et donc elle sera une des invitées à l'automne.
Oui, puis il y a aussi des textes d'enfants faits dans le cadre de revues, parce que même dans une situation de crise, vous l'avez dit, il y avait une vie culturelle qu'on tentait de maintenir. Pour,
oui, il y avait des petits journaux.
Il y avait des petits journaux, il y a des textes de Peter Ginz.
Il y a Peter Ginz qui était un texte qui est assez connu, mais on a traduit par exemple... Donc Peter Ginz était rédacteur en chef de VEDEM, qui était la revue pour enfants qui avait été faite à Térézine. Mais on a aussi traduit une revue qui nous a été donnée par l'Institut historique juif, qui s'appelle Notre Gazette, qui était une revue faite dans la colonie de Marizine, donc qui était au ghetto de Lodz. Et ça n'avait jamais été traduit. C'est une revue magnifique avec des dessins sublimes et des textes très très durs sur la guerre, sur les conditions de vie. Enfin, c'est vraiment très intéressant.
Faut rappeler que Ringelblum avait, dans ses archives Ringelblum que l'on connaît du ghetto de Varsovie, ils ont fait des enquêtes sur les enfants, qu'on doit dire qu'on peut trouver en français pour une partie, quand ils publiaient chez Fayard. Mais on a retrouvé ils ont interrogé aussi des enfants qui arrivaient à Varsovie. Et certains racontent des choses absolument extraordinaires et terribles, ce qu'ils ont vu en tant qu'enfants, à 7-8 ans. Des gens assassinés devant eux, des rafles, donc il y a aussi leurs parents, moi, beaucoup qui racontent qu'ils ont accompagné leur mère ou leur sœur ou leur frère qui meurent de faim et qui sont morts dans leurs bras. Ils ont 7-8 ans ou 6 ans ou 7 ans et qui racontent des choses comme ça et qui ont déjà beaucoup d'expérience à 12 ans. Ils ont déjà vu des assassinats, des fusillades, etc. Et ça, ça montre aussi en plus de la douleur physique, de la douleur liée à la faim, etc., des tortures autres, il y avait aussi cette douleur psychologique permanente de ces enfants.
Mais je dirais quand même en contrepartie, il y a aussi, on montre aussi beaucoup de tests qui montrent à quel point les enfants ont réagi à ça et comment ils ont réagi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, il y a même un petit garçon qui se débrouille tout seul, c'est-à-dire qu'il se retrouve tout seul. En fait, il achète des cigarettes, il leur vend plus cher, il achète des petits journaux et tout ça. Il arrive à payer la femme chez laquelle il est caché, donc ce qui est quand même hallucinant, il a 12 ans quoi. Donc il arrive à payer, à faire de l'argent et tout ça, donc c'est un petit malin. À côté de ça, il y en a qui racontent qu'il est recueilli par sa tante, mais dans le ghetto de Varsovie, elle n'a pas d'argent pour le nourrir, donc elle nourrit sa fille, mais lui, elle ne le nourrit pas. Après, il y a ceux qui s'en vont chez les partisans, qui deviennent des soldats armés. Et puis, il y a aussi, je trouve, on a trouvé aussi plein de gestes anonymes, comme ça, très beaux d'enfants. Alors, on parle toujours de Janusz Korczak, qui est parti avec les enfants... dans le train pour Treblinka. Mais là, par exemple, dans le livre noir d'Iliane Renbourg et Vasily Grossman, j'ai trouvé un témoignage Abraham Souskever, qui raconte dans le ghetto de Vilnia, une jeune fille qui avait 12-13 ans, qui s'occupait des petits-enfants dans le ghetto, et qui, donc les petits-enfants vont être déportés, et elle part avec eux. Et donc c'est le père qui raconte, il dit voilà, ma fille elle est partie, Gold elle s'appelait. Donc je pense aussi, on peut se rappeler qu'il y a des enfants qui ont eu eux aussi des gestes comme ça, extrêmement héroïques et courageux.
Oui, tout à l'heure, on le voit bien dans l'exposition, effectivement, la manière dont ces enfants sont livrés à eux-mêmes, se débrouillent, font preuve d'une ingéniosité permanente, sont obligés de travailler, et effectivement, pour certains d'entre eux, rentrent dans la résistance.
Oui, il y a eu aussi deux autres phénomènes très importants, c'est qu'il y a eu un sauvetage, un sauvetage qui a été organisé dans les différents pays, qui était tout à fait marginal souvent, qui était le fait d'associations et d'individus, on parle quand même dans ces... Bon, il y a le cas de Jegota et de Sendlerowa en Pologne, qui a sauvé quand même plusieurs milliers d'enfants. Il y a les associations en France. Il y a toute une partie d'exposition qui est consacrée
sur le sauvetage.
Et deuxièmement, sur l'histoire sur les orphelinats, le cas de Korczak qui est très connu, effectivement. Par exemple, il y a d'autres orphelinats, celui de Lublin, ils ont été fusillés par les nazis. Leurs deux éducatrices sont parties avec elles. Avec eux, c'était essentiellement des petites filles, mais ils ont été assassinés. Donc il y a eu aussi cette solidarité pour le sauvetage, mais bien sûr, ça n'a pas empêché le grand massacre des enfants qui a été aussi la Shoah.
Et donc la dernière salle de l'exposition est consacrée effectivement aux enfants dans les camps de la mort, aux enfants au milieu des tueries donc de l'Est, effectuées par les Einsatzgruppen. Et là, alors ça semble impossible à raconter, et pourtant vous avez trouvé des témoignages de gens qui ont vu, qui racontent, de gens qui ont survécu, quelques très rares survivants.
La grande surprise, moi je ne connaissais pas du tout, c'est ce témoignage donc, de Bereldorf Freiberg qui participe à la révolte de Sobibor, qui a 14 ans quand il intègre le Sonderkommando de Sobibor, donc un témoignage qui est assez peu connu, qu'on a retraduit là encore, qui est conservé en fait, qui a été... pas recueilli par les commissions historiques juives, mais qui a été recueilli dans le cadre de procès qui ont eu lieu, évidemment, dans l'immédiat après-guerre. Il y a aussi un témoignage de Simon Srebnik. Alors, Simon Srebnik est très connu, puisque c'est lui qui ouvre le film Shoah de Claude Lanzmann. Mais il faut savoir que Srebnik a témoigné, lui aussi, en 1945. Il avait 13 ans, en 1944, à Chelmno. Donc, il y a des témoignages comme ça. Il y a aussi des enfants qui se sont sortis d'Auschwitz, qui ont témoigné à l'époque. Et donc on en a trouvé plein dans ce témoignage de la commission historique, dans les témoignages recueillis par Benjamin Tenenbaum. Enfin, moi c'était un petit peu la surprise. Évidemment, je savais qu'il y avait des enfants qui avaient survécu, puisque je les connaissais adultes, puisqu'aujourd'hui on en voit beaucoup au mémorial de la Shoah. Mais je ne savais pas qu'ils avaient témoigné si tôt. Et ce qui me semblait important, c'était aussi d'apporter le témoignage à une époque où il restait formulé par des gens qui, même s'ils avaient pris une maturité, restaient tout de même des enfants.
Vous savez, quand les Juifs sont sortis, ceux qui ont réapparu en Pologne après juste en 1944-1945, ils ont été accueillis par des comités juifs qui ont été mis en place. Et dans ces comités juifs, ils ont fait systématiquement un travail de recueil. Donc beaucoup d'enfants ont témoigné. Il y a aussi des gens qui ont vu les massacres. Il y a un pharmacien qui est un peu oublié, mais qui est... dont le témoignage avait été publié en français il y a quelques années, il s'appelle Tadeusz Pankiewicz, qui était dans le ghetto de Varsovie, qui n'était pas juif, et qui était dans le ghetto de Cracovie, excusez-moi, et qui racontait toute la liquidation du ghetto, et il montre comment, lors de la liquidation, c'est-à-dire que lorsqu'on vidait le ghetto, et les Allemands faisaient rentrer les Juifs dans des transports pour les emmener à Treblinka ou à Belzec ou à Rémno, il y avait beaucoup, beaucoup de massacres. Et rien qu'à Cracovie, sur la place centrale du ghetto, il y a eu 2000 personnes qui ont été tuées en quelques jours. Et parmi ces personnes assassinées, beaucoup d'enfants et beaucoup de petits, très petits enfants. Et ou dans les hôpitaux, ou dans les nurseries. Et ça a été vraiment une terrible. Et lui, et on voit dans l'exposition, il y a plusieurs témoignages de ce type qui racontent ces massacres. Et il y en a eu un très important aussi à Vilno. Il y en a eu d'autres à Cracovie, donc à Varsovie. Donc c'est ces massacres-là qui, en plus de ce qui s'est passé à Auschwitz, à Treblinka, à Belzec, etc., se rajoutent dans l'exécution faite par les nazis des enfants.
Oui, puis il y a aussi, vous l'abordez dans l'exposition, et c'est très rude de s'affronter à cette pensée-là, cette question voilà, des nazis, des SS qui se disent, voilà, on doit tuer les enfants pour pas qu'ils se vengent sur nos enfants à nous plus tard.
C'est celui qui écrit à sa femme, enfin, il y a un truc terrible.
Oui, Mattner, de Walter Mattner.
Je n'ai pas le texte, mais il ne faut pas le citer.
Non, il ne faut pas le citer.
Mais c'est un texte qu'on avait d'ailleurs déjà mis quand on avait fait l'exposition sur l'Ukraine. Parce que ça se passe en Ukraine, il faisait partie des NZ Group. Oui, enfin, il faut quand même se rendre compte que même s'il y a beaucoup de... Ça a été quand même compliqué au début hein, de commencer à tuer les enfants, notamment par balle, hein, parce que tout de même, les mecs qui étaient en face, c'était pas non plus évident tout de suite, mais finalement, il y avait quand même un endoctrinement et il y avait une vraie pensée qu'on était dans le droit de le faire et qu'il fallait le faire. Donc ce qui est un petit peu justifié en 43 qu'on montre dans l'exposition, dans un discours prononcé par Himmler à Posen, qui dit voilà, si nous, notre génération, ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on ne tue pas les enfants, on va laisser à nos enfants, à nous, la tâche de tuer ces enfants qu'on n'aura pas tués, parce qu'évidemment, ces enfants voudront se venger de leurs parents. Donc, par propre conscience pour nos enfants, il faut aller jusqu'au bout, il faut les tuer. Donc ça, c'est un peu une justification, mais on montre dans l'exposition, à travers divers textes aussi, que commencer à tuer les enfants, ça n'a pas été quand même si facile que ça, bien que, comme on le montre également dans le rapport Jaeger, on voit que 15 jours ou 3 semaines après l'entrée des troupes allemandes sur les territoires de l'Union soviétique, ils commencent à tuer les enfants et que là, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on passe de 15 enfants tués à 1000 3 jours après.
Bon, c'est une exposition qui est très dure, mais je pense qu'il y a aussi des aspects historiques qui sont intéressants. On a fait tout un couloir avec des photos très connues que tout le monde a vues sur les enfants pendant la Shoah et donc avec une documentation historique sur qu'est-ce que c'est que ces photos.
Oui, vous les réattribuez parce que souvent elles ont fait l'objet de légendes.
Oui, bien sûr. Oui, c'est un travail très important aussi pour l'histoire.
Oui, vous avez aussi découvert, peut-être pour finir, découvert des archives, des choses inédites dont vous ne connaissiez pas l'existence en tant qu'historien.
Oui, enfin, il y a beaucoup de choses sont montrées pour la première fois en France, traduites, et effectivement, il y a toute une documentation, notamment sur cette Shoah qui s'est passée essentiellement en Europe centrale et orientale, et donc, où quand même, il y a, sur les 6 millions de Juifs assassinés, il y a quand même près de 5 millions qui étaient dans cette région et qui ont été tués là-bas. Donc, je crois que, pas tout le monde était là-bas, mais qui ont été tués là-bas, et je crois que il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'éléments qui sont peu connus et qu'il faut faire traduire, qui ne sont même pas traduits. Ce qu'il y a dans les archives Regenblum, beaucoup de choses ne sont pas traduites, et même, mais pas que ça, il y a beaucoup des chroniques. Moi, j'ai vu récemment, j'ignorais, il y a des photos et des films sur le ghetto de Łódź qui sont absolument bouleversants, qu'on peut montrer. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore montrer.
Et d'ailleurs, il y a l'entrée de l'exposition, on ne l'a pas mentionné, mais ce film, qui est fait de films de famille, j'imagine, oui. De films aussi qui montrent la vie quotidienne dans la rue, la vie d'avant, en fait.
Oui, c'est un film que j'ai fait à partir d'un fonds d'archives qui existe à l'Holocaust Memorial de Washington. Et j'ai rencontré Réfar au mois de mars et je lui ai dit mon intérêt pour ce film et que je voulais faire quelque chose parce qu'on n'avait pas la place, on va dire, d'évoquer l'avant. Donc je trouvais que montrer des films de famille et montrer des enfants juifs dans différentes situations telles qu'ils étaient en Europe, c'est-à-dire extrêmement assimilés en Allemagne ou dans l'Ouest de l'Europe, et puis un petit peu plus, on montre des colonies par exemple en Crimée, donc on voit vraiment ces juifs russes, un peu dans la collectivisation, dans ces utopies qui ont été montées. Et puis aussi, il y a deux images assez incroyables de Cracovie, du ghetto, et du ghetto de Varsovie, où on voit donc tous ces jeunes gens, ces adolescents, ces enfants, qu'après on va retrouver, alors évidemment, à l'image, on ne sait pas qui c'est, souvent, certains on le sait, mais pour ceux qui sont dans les ghettos, on ne sait pas, mais on imagine tout à fait que ce sont les mêmes enfants.
Ça donne une autre image que celle qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on voit très souvent ces images qui ont été tournées par les Allemands dans le ghetto de Varsovie, qu'on voit partout, qui ont un intérêt historique, bien sûr, mais je pense que là, on a une autre image aussi de la jeunesse de cette époque, et du mode de vie de cette époque, les parcs, les gens qui se promènent, c'est plutôt assez sympathique.
Merci encore. Je rappelle Sophie Nagiscard et Jean-Yves Potel donc, que vous êtes commissaire de cette exposition qui se tient donc du 19 juin au 30 décembre au Mémorial de la Shoah. J'imagine qu'il y a aussi un arsenal de colloques et de journées d'études qui l'accompagnent.
Le 1er juin, on a un dimanche qui arrive, là. On a un colloque sur les enfants cachés au Mémorial. Et ensuite, on reprendra la programmation au mois d'octobre avec une série de films, beaucoup de rencontres avec des enfants cachés qu'on est allé chercher assez loin, notamment des survivants même de Térézine qui ont participé à l'opéra Brundibar, Yanina Echeles, donc qui était dans le Kornianovska, Ghetto Lvov, qui a été exfiltrée et qui est une survivante extrêmement intéressante et dont le témoignage, je vous le disais, a été publié en 1946. Enfin, plein d'événements que vous pourrez retrouver sur notre site.
Merci beaucoup. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain. Mais tout de suite, on retrouve « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es » avec Ilana Sécurel.